vérité. Nous croyons que la parole de Dieu est toute puissante. La parole de Dieu, elle est là pour agir, pour nous reprendre. Et les paroles que nous lirons ce matin de la part de Jésus-Christ ne seront pas les paroles les plus faciles à entendre, peut-être. Ce seront des paroles parfois difficiles à digérer. Mais l'entièreté de la Bible est à lire et à méditer pour nous permettre de faire la route avec le Seigneur Jésus. Alors, je voudrais vraiment, avant d'aller plus loin, c'est de prier encore ensemble. Éric l'a déjà fait une fois, mais on ne prie jamais trop de toute façon. On prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous sommes dans la joie d'être dans ta présence, Seigneur. Et au moment d'ouvrir ta parole, Seigneur, nous voulons que tu puisses ouvrir nos cœurs et nos oreilles, Seigneur. Seigneur, il a été dit dans les prières que nous sommes venus avec nos fardeaux, avec nos tracas, avec nos épreuves, avec nos doutes, Seigneur, et nous voulons te demander, Seigneur, en Jésus-Christ, c'est que tu puisses chasser, Seigneur, en cet instant, ces pensées, Seigneur, toxiques, comme Francis l'a dit. Ces choses qui nous font réfléchir à autre chose qu'à ta parole. Seigneur, nous voulons te demander que chaque cœur soit ouvert, Seigneur, pour toi ce matin, que nos oreilles soient grandes ouvertes pour entendre, Seigneur, et que l'Esprit Saint qui est en nous, Seigneur, vienne graver ces paroles dans notre cœur, afin que l'on puisse les méditer, les mettre en pratique, Seigneur, et vivre heureux, Seigneur, par là, avec toi. Seigneur, donne-moi du zèle, Seigneur, pour annoncer ta parole. Seigneur, fais de moi un outil, Seigneur, d'entre tes mains. Seigneur, utilise-moi pour que ta parole, Seigneur, puisse passer et faire son œuvre en chacun de nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, abondamment. Et reste avec nous ce matin. Prends la place qui te revient, Seigneur. Amen. J'aimerais vous emmener ce matin, si vous êtes prêts, en Turquie, à 10 kilomètres de Hiéropolis ou de Pamukkale, donc ça dans les temps de Jésus. Vous emmener à la rencontre d'une ville, et dans cette ville, eh bien, il y a une assemblée chrétienne. Alors, cette ville a été fondée par Antiochos dans les années 263-261 avant Jésus-Christ, et il a nommé cette ville en l'honneur de son épouse, qui s'appelait Laodice. Ville réputée pour ses sources d'eau chaude, nombreuses, réputées, et notamment aussi pour ce système d'aqueduc qui amenait l'eau chaude, très chaude, des sources jusque dans la ville, dont nous parlerons après. Ville aussi très connue pour son tissu, notamment la couleur pourpre, un tissu très connu, réputé, où beaucoup de monde se déplaçait pour venir l'acheter. Ville également très réputée pour sa médecine de l'œil, pour les yeux, clinique de l'œil, avancée par rapport aux autres, surtout connue pour ses nombreux collyres pour soigner la vue. Alors peut-être que certains l'auront reconnue, il s'agit de la ville de Laodicée, dont le Seigneur Jésus va parler dans l'Apocalypse, au chapitre 3. Et ce qui est intéressant, c'est que les commentateurs, les théologiens, disent que cette église, dans l'Apocalypse, est en quelque sorte le reflet de l'église des derniers temps, les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes une église ici à Jumet des derniers temps, dans les temps de la fin. Et il est donc, je pense, très judicieux de pouvoir s'arrêter un instant et d'écouter ce que l'Esprit veut nous dire par rapport à cette église et de ne pas croire que ces paroles sont juste bonnes pour l'époque ou pour les chrétiens de cette assemblée, mais qu'elles sont valables pour nous aussi ce matin. Et vous allez voir que les paroles de Jésus vont être dures à leur égard. Avant de faire la lecture avec vous de ce passage, en chapitre 3 de l'Apocalypse, il y a le dernier verset qui va être comme le fil conducteur de la prédication ce matin, c'est quand Jésus dira que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous avons ce matin tous reçu deux oreilles, et seulement une bouche. C'est peut-être que parfois il est judicieux de savoir s'arrêter et d'écouter plutôt que de parler, et d'écouter ce que l'Esprit veut nous dire. Alors que ce matin, les paroles de Jésus ne soient pas là pour nous refroidir, pour nous faire du mal, mais qu'elles soient là pour nous relever, pour nous édifier, pour nous apprendre. Sachons rester dans cet esprit d'écoute, c'est important. Que l'Esprit de Dieu qui est en nous agisse et grave ses paroles en nous. Je vous invite à prendre la parole de Dieu, Apocalypse, chapitre 3. À partir du verset 14 jusqu'au verset 22. Et je voudrais, si c'est possible, que pendant toute la prédication, ce verset reste affiché à l'arrière, si c'est possible, parce que je vais y revenir plus ou moins souvent, et nous ferons d'autres lectures durant la prédication. Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, au verset 19, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Verset 22, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà pour la première lecture de ce matin. On peut commencer par dire que directement, Jésus dira, on sait que c'est Jean qui écrit l'Apocalypse, Jean le disciple de Jésus, le disciple que Jésus aimait, qui a écrit l'évangile de Jean, qui après, sur l'île de Patmos, le Saint-Esprit l'a guidé pour écrire cette lettre de l'Apocalypse, cet Apocalypse complet, Apocalypse de Jean, les révélations. Et il commencera directement, Jean, par dire, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Et on veut se rappeler par là aussi le prologue de Jean dans son évangile au chapitre 1er, qu'on peut afficher derrière si on le souhaite, ce serait même bien, qui dira « Au début était la parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». On voit vraiment que Jean tient à nous rappeler ces choses-là, que c'est Jésus l'important, que c'est Jésus qui est l'élément primordial, l'essentiel dans nos vies. C'est Jésus, c'est le Sauveur, c'est par lui que tout a été fait, c'est par lui que tout est fait. C'est lui qui fait tout subsister, c'est lui qui créa toute chose. Jésus n'a jamais été créé, mais c'est lui qui a tout créé. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il nous faut garder, parce que si on ne comprend pas ça, si c'est déjà pas clair pour nous, on peut moins facilement comprendre l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, intéressons-nous maintenant au contenu de cette lettre. Ça ne dure pas longtemps, mais il y a énormément de contenu dans cette lettre. Et on peut constater que dès le commencement, ici, pour cette église de Laodicée, ben, c'est pas top. C'est pas top. Ça commence pas terrible. Et je voudrais ouvrir une parenthèse directement sur Jésus qui dit « Je connais tes œuvres ». Je connais tes œuvres, au verset 15. Je connais tes œuvres. Jésus est celui qui connaît. Alors c'est rassurant de dire que Jésus connaît nos faiblesses, connaît notre nature humaine, il connaît nos difficultés, connaît nos épreuves, il connaît nos moments difficiles. Ça c'est vrai aussi, mais c'est à double tranchant. Jésus connaît. Il connaît mes motivations. Il connaît si je fais ça par orgueil, pour le regard des hommes. Il connaît si je le sers avec fidélité. Si je le sers pour un intérêt. On ne dupe pas Jésus. Jésus connaît. C'est pourquoi il dit, je connais tes œuvres. Il dit ça à l'église de Laodicée. Et ce matin, église de Jumet, Jésus connaît nos œuvres. Il connaît. On ne trompe pas Dieu. On ne peut pas se permettre de penser un jour pouvoir tromper Dieu. On peut tromper les hommes, on peut tromper beaucoup de monde, mais pas Jésus. On ne le trompe pas. Et il dira, ça ne commence pas bien, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Alors, on peut constater que Jésus, très pédagogue, eh bien, il utilise des choses que les chrétiens de Laodicée, ça leur parle. Ils ont des sources d'eau chaude, bouillantes, qui, une fois amenées dans la ville par un système de navettes d'eau, quand elle arrive dans la ville de Laodicée, eh bien, elle est tiède. C'est reconnu qu'elle arrive tiède. Avec le chemin qu'elle a parcouru, elle a refroidi, et quand elle arrive en ville, elle est tiède, et cette eau est stockée dans des grandes jarres, et avant de pouvoir l'utiliser, ils doivent la laisser refroidir. Et alors c'est une eau rocheuse, et pour ceux qui ont déjà pu constater, aller visiter ou même se tremper dans des sources d'eau chaude rocheuse, souvent cette eau, elle a un goût de soufre. Et le soufre, c'est un peu une odeur d'œuf pourri, comme ça. C'est un peu une eau qui n'est pas très bonne à sentir. C'est une eau qui ne sent pas bon. C'est une eau qui peut être écœurante, donner la nausée. Et dans les pays chauds, l'eau chaude, très chaude, elle est utile pour préparer le thé, par exemple le thé à la menthe, que nous pouvons déguster lorsqu'on va dans les restaurants algériens, ce genre de choses. L'eau chaude, très chaude, est utile pour soigner, pour désinfecter. L'eau fraîche est utile pour se laver les pieds, après une longue marche, est utile pour se rafraîchir. Mais l'eau tiède, elle ne sert à rien. L'eau tiède, elle n'est pas utile. L'eau tiède, on n'en fait rien. Donc on voit vraiment que Jésus utilise des choses que ces chrétiens peuvent comprendre. Il est comme ça, Jésus. Il aime bien que l'on comprenne sa parole facilement. C'est pourquoi il se met à un autre niveau, Jésus. Et la première question qui m'interpelle, elle vous a peut-être interpellé vous aussi, c'est que c'est bizarre ce que dit Jésus. Parce que le langage biblique, le langage évangélique, ce serait de se dire, pour Jésus-Christ, il faut être bouillant, il faut être chaud, il faut être bouillant, il faut avoir du zèle pour Dieu. Et il faut être bouillant et il faut partager cette chaleur avec les autres. Il faut vraiment que les autres sentent la chaleur qui émane de nous et qu'on la partage aux autres. Ça, c'est qu'on est bouillant. Mais tiède, c'est pas froid. Ce serait mieux d'être tiède que froid. Parce que tiède, c'est pas tout à fait froid, c'est pas tout à fait chaud, mais c'est mieux que rien, on pourrait dire. Et là, Jésus dira non, il dira, puisses-tu être froid ou bouillant, mais pas au milieu. Ça colle pas spécialement avec ce qu'on a envie de dire. Et pourtant, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Puisses-tu être froid ou bouillant? C'est bizarre, ça m'a interpellé. Et je pense que c'est parce qu'il y a un problème. Il y a un problème avec ça. C'est parce que quand on est tiède, il y a un gros souci. Être tiède, eh bien, ça cause des ennuis. Et ça, Jésus le sait. Et c'est pour ça qu'il dit, puisses-tu être froid ou bouillant, mais pas au milieu, pas tiède. Et on va comprendre pourquoi. D'abord, le froid. Quelqu'un qui est froid. Le froid, il se touche, il sait qu'il est froid. Il sait que la chaleur n'est pas sur lui. Il sait que la chaleur, elle n'est pas à l'intérieur de lui. Il sait qu'il ne peut pas donner la chaleur aux autres parce qu'il ne l'a pas sur lui. Le froid, il sait qu'il a besoin de la chaleur puisqu'il ne l'a pas. Le froid, c'est bien qu'il est pécheur. Il sait qu'il a besoin de Dieu. Il sait qu'il a besoin d'un sauveur. Le froid, il a besoin de Dieu. Il le sait. Il a besoin de quelque chose de plus dans sa vie. Il a besoin de quelque chose de plus que ce qu'il a actuellement. Et ça, il le sait parce qu'il est froid. Et ce que Jésus veut dire ce matin, c'est qu'il vaut peut-être mieux être froid, vaut mieux être froid que tiède, pour pouvoir justement se rendre compte d'être capable d'être amené à rechercher Dieu, à le rencontrer, à bénéficier de sa chaleur, de l'onction de son esprit dans sa vie. Chose que le froid, il sait très bien, il connaît très bien, mais le tiède, il ne sait pas. C'est plus difficile quand on est tiède. Le gros problème du tiède, c'est que quand il se touche, il sait qu'il n'est pas froid. Il met sa main sur lui et dit « Non, ça va, je ne suis pas froid. C'est pas pour moi, moi je ne suis pas froid, moi. Tout va bien, tout va bien. Je suis tiède, tout va bien. » Il se rassure comme ça, il s'auto-rassure. « tout va bien, je ne suis pas froid. » Pas de problème, moi, avec le froid, parce que je suis tiède. Donc, pas de souci, tout roule pour moi. Le tiède n'a pas besoin de Dieu, car il a déjà rencontré Dieu une fois et il sait qu'il n'est pas froid, donc tout va bien, tout roule. Ce qu'on peut raconter dans les prédications, dimanche après dimanche, ben, ça concerne sûrement ceux qui sont froids, mais quand on est tiède, on n'est pas encore froid, donc ça va, on peut continuer comme ça. Le tiède, il se rassure beaucoup. L'ennemi veut qu'on se rassure nous-mêmes. Tout va bien, cherche pas plus le Seigneur, ça va, ça roule, tout va bien. Tout va bien, tu liras ta Bible demain, ou tu iras à l'église dimanche d'après, ou la réunion de prière, si tu la rates, c'est pas grave, parce que t'es tiède, de toute façon t'es pas froid. Laisse les froids y aller, ça leur fera du bien. Ça, c'est l'ennemi qui parle comme ça. Le froid a besoin de se convertir, mais le tiède pas besoin, car il n'est pas froid. Le froid a besoin de faire une expérience avec Dieu, de le rencontrer, de renouveler sa relation avec lui. Le tiède, non, parce qu'il a toujours cette relation avec le Seigneur. Il pense toujours l'avoir, du moins. Le tiède a déjà fait son expérience, alors plus besoin. Le froid a besoin de repentance. Le froid a besoin de se mettre devant Dieu, devant son regard. Le tiède, pas spécialement, parce que ça va. Pour résumer, le tiède, il ne sait pas et il ne se rend pas compte et il ne veut peut-être même pas se rendre compte à quel point il est devenu tiède et que c'est dangereux pour lui. Le froid a besoin de Dieu, le tiède, non. Et le verset 17 de cette lettre à l'église de Laodicée, c'est une phrase qui peut nous parler à plusieurs aujourd'hui. En tout cas, moi, elle m'a déjà parlé lorsque j'ai préparé ce message. C'est des mots durs de ces chrétiens-là dans l'assemblée, parce que je rappelle que c'est une église de Laodicée. Ce ne sont pas des gens du dehors, ce sont une église, des chrétiens. Et ces chrétiens vont dire, Jésus leur dira, tu dis, je suis riche, j'ai fait de bonnes affaires, moi je manque de rien. Tu dis, je suis riche, j'ai fait de bonnes affaires, je ne manque de rien. Quand on est tiède, on peut dire ça. Moi je suis riche, J'ai fait de bonnes affaires. J'ai fait des affaires financières, mais aussi j'ai fait des affaires spirituelles. Le Seigneur m'a déjà béni abondamment. Comme il était rappelé ce matin dans le psaume, j'ai été béni déjà. Donc j'ai la bénédiction de Dieu. Tout va bien, moi j'ai pas besoin d'autre chose parce que je suis déjà riche. Je suis riche, tout va bien pour moi. Mais Jésus dira, tu ne sais pas combien tu es misérable, aveugle, nu, malheureux. C'est ça la réalité sur eux. C'est ça la réalité. Qu'est-ce qui est plus triste ce matin? Qu'est-ce qui est plus triste que ça? Que quelqu'un qui dit, je suis riche, tout va bien, j'ai fait de bonnes affaires, qui se contente de ça, qui croit que tout va bien, et à qui Jésus dira, mais t'es misérable, mon vieux, t'es pauvre, t'es aveugle et t'es nu, et tu crois que tout va bien pour toi. C'est malheureux. Il n'y a même pas de quoi rire de ça, c'est vraiment malheureux. Mais ça peut être notre cas. Ça peut être notre cas. En tant qu'assemblée, et aussi en tant qu'être humain, enfant de Dieu, ça peut être notre cas. Je ne suis pas froid, alors tout est beau pour moi. Le froid, il sait qu'il est malheureux et qu'il doit venir au Seigneur. On entend souvent d'ailleurs, hein, même les gens du dehors, ils disent parfois, je sais que je vis dans le péché, c'est pas bien ce que je fais. Ils se rendent parfois plus compte que nous. Parce que quand on est tiède, quand on a fait une relation avec Dieu, quand on a son petit chemin, sa petite routine, eh bien, voilà, on se contente de ce qu'on a et on est comme ça. L'être humain, il est comme ça, il se contente facilement de ce qu'il a. Pourtant, nous sommes misérables, nous sommes pauvres, aveugles et nus, et nous sommes comme ça. Pour résumer avec ça, le gros problème du tiède, c'est que lui, il ne sait pas. Le tiède ne sait pas. Le tiède croit que tout va bien. Il croit être vivant pour Dieu. Il croit cheminer avec Dieu. Il croit être bien avec Dieu. Mais en réalité, pour Dieu, il est mort. Il est éteint, dans le pire des cas. Tu es tiède. Ce matin, peut-être, Jésus connaît. Je connais tes œuvres, dira Jésus. Tu es tiède et tu penses que tout va bien. Tu ne sais pas que tout va mal, pourtant. Parce que tout va mal si tu es tiède ce matin. Et que tu dis tout va bien, je suis riche, j'ai fait de bonnes affaires, j'ai besoin de rien d'autre. Dans quelle position sommes-nous ce matin? C'est la première question importante sur laquelle il faut s'arrêter. Qu'en est-il par rapport à cela, à notre température, à notre état devant Dieu? C'est pas à nous le juger, à moi ni à personne, c'est à Dieu. Il faut s'interroger, s'examiner devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, tu connais. Moi je connais pas, mais toi tu connais, tu sais la vérité sur moi. C'est important de s'examiner devant le Seigneur, c'est comme ça qu'on avance. Est-ce que ce matin, je peux me dire, oui, moi, je suis un bon chrétien, moi. Je viens à l'église, moi, le dimanche. Moi, je rate de temps en temps, mais c'est pas grave. Je mets même de l'argent dans la bourse quand elle passe, et parfois, je mets des beaux billets. Moi, je vais de temps en temps à une réunion, alors tout roule. Moi, avec le froid, j'ai pas de soucis, parce que je suis tiède, et j'ai ma petite routine qui est là avec le Seigneur. J'ai une vie bien rangée, j'ai une petite routine. Mais si ce matin, le Seigneur, dans ton cœur, te fait reconnaître que tu es tiède, et que tu dis tout va bien pour toi, que t'as besoin de rien, t'as un problème. Nous avons un problème. Et c'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus. Parce que tu n'es ni froid ni bouillant, au verset 16, je te vomirai de ma bouche. Je vomirai de ma bouche. Quel mot dur de la part de Jésus. C'est du Sauveur qu'on parle ici. Du Sauveur qui est monté sur la croix. Dans son amour, il est aussi justice. Trois fois saint. Il a été rappelé par Patrick la semaine dernière. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu n'es ni froid ni bouillant et que tu dis tout va bien, je suis riche. J'ai fait de bonnes affaires. Je te vomirai de ma bouche. Vomis de la bouche du Sauveur. Il y a un truc qui ne fonctionne pas là. Il manque quelque chose dans la vie à ce moment-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si nous sommes tièdes ce matin, on pourrait employer des mots difficiles. On est écœurant comme l'eau qui ne sent pas bon dans les sources d'eau chaude. On est dégoûtant, même parfois, pour le Seigneur. Au tel point que cette eau-là, elle fait vomir. Elle fait vomir, eh bien, elle peut faire vomir le Seigneur. Parce qu'on est tiède et qu'on dit tout va bien. Moi, j'ai besoin de rien de plus parce que j'ai fait de bonnes affaires, j'ai des bénédictions. Il m'a béni le Seigneur, alors moi, j'ai besoin de rien d'autre. Les autres ont besoin, hein, mais moi, non. Moi, ça roule. Deuxième question, c'est ce matin, frères et sœurs, et moi compris, quelle est ma température exacte pour Dieu? Quelle est ma température? Est-ce que je suis froid? Est-ce que je suis tiède? Est-ce que je suis bouillant? Le Seigneur, il le sait, hein. Moi, je peux tromper les hommes ou n'importe qui peut tromper les hommes, hein. C'est facile, mais pas Dieu, pas Dieu. Il faut avoir une prise de conscience. Je pense que c'est ce que Jésus il veut ce matin par rapport à cette parole. Soit on est bouillant. Si on est bouillant, gardons la température. C'est qu'on est proche de Dieu. Mais gardons pas seulement cette chaleur pour nous, partageons-la aux autres. Pour que notre chaleur, eh bien, elle émane sur les autres. Tu sais, quand une casserole d'eau bouillante, elle boue, ça fait de la vapeur. Hein, et la vapeur, elle peut contaminer les autres comme ça. Eh bien, que la chaleur de Dieu puisse contaminer les autres. Ça, c'est si on est bouillant. On peut être froid ce matin. On peut être venu, on est complètement froid. Eh bien, si on est complètement froid, tout n'est pas perdu. Et le Seigneur, c'est aussi le Seigneur du pardon, de la grâce, de la miséricorde. On est encore sous le temps de grâce. Ça dure toujours. D'ailleurs, Jésus dira, je me tiens à la porte et je frappe. On verra ça après. Mais si on est froid, on peut rencontrer le Seigneur. Parce que quand on se touche, on peut se rendre compte qu'on est froid. On est froid, on a besoin de plus. On a besoin de zèle, on a besoin de la présence de Dieu. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Ce matin, on est peut-être aussi tiède. Parce que c'est ce que le Seigneur nous montre au travers de sa parole. Je suis tiède. Et je dis, tout va bien. Parce qu'on peut être tiède et se rendre compte qu'on est tiède. Alors là, on peut changer les choses. Mais si on est tiède ce matin et qu'on se dit, tout va bien. J'ai ma petite vie pépère, ma petite routine avec le Seigneur. Je suis béni, juste ce qu'il me faut. Ben, je ne cherche pas à avoir plus. Plus, c'est pour les autres. Moi, j'ai déjà pas mal, moi, déjà. Quand je me touche, ça va. Il sera encore temps de rallumer plus tard le feu parce que je suis encore suffisamment chaud. Mais ça, c'est dangereux. Là, il y a un problème. Il y a un problème grave, même. Le problème grave, c'est d'être vomi de la bouche du Sauveur. Ça, c'est le problème grave. Mais le Seigneur, il n'est pas là juste pour dire ce qui ne va pas. Il dit ce qui ne va pas, il met le doigt. Vous savez, quand on va chez le médecin, qu'on a mal quelque part, notamment au pied, pour savoir si vraiment, c'est vraiment là qu'on a mal, le médecin il nous ausculte et il appuie. Et tout d'un coup, il appuie, on fait « Ah, c'est là. Ouais, » c'est là, hein, et il appuie une fois pour être sûr. Oui, c'est bien là, ça m'est déjà arrivé, moi, ça, hein, au pied. Et alors là, il met le doigt sur quelque chose qui fait mal. Eh bien, Jésus, c'est peut-être ce qu'il fait ce matin. Il met le doigt d'abord sur quelque chose qui ne va pas, qui fait mal. Parce qu'après, on pourra avoir le traitement. Après, on pourra faire quelque chose pour évoluer. Donc Dieu qui est riche en bonté, en grâce, en miséricorde, dans sa parole, donne un conseil ce matin. Il donne un conseil. Il l'appellera d'ailleurs « Je te conseille », il dira. Et le conseil de Dieu, de Jésus, pour nous ce matin, c'est le suivant, verset 18 et verset 19, qui est toujours affiché derrière. Verset 18 et 19. « Je te conseille d'acheter de moi, dira Jésus, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs afin d'être vêtu et que la honte de ta nudité ne se voit pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois, verset 19, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. » Et je trouvais ça bizarre dans ces passages, avant de m'intéresser vraiment au conseil, c'est pourquoi Jésus dit « Aie donc du zèle et repens-toi. » Aie donc du zèle. S'il dit « donc du zèle », c'est qu'il y a un manque de zèle. Il ne dirait pas ça autrement. Pourquoi il dit « Jésus, aie donc du zèle et repens-toi » Ça veut dire qu'on manque de zèle. Assemblée de jumets, ce matin, nous manquons de zèle. Nous sommes comme l'église de la Odyssée, nous manquons de zèle. Ça manque souvent. Cette chaleur pour parler de l'Évangile, pour témoigner, pour être présent, pour témoigner, pour être présent aux activités de l'Assemblée, on manque de zèle, Jésus le dit. Et donc du zèle et repens-toi. Quand l'apôtre Paul, dans les lettres aux églises, dans le Nouveau Testament, eh bien, il emploie les mots pour dire « aspire à quelque chose de mieux avec Dieu, aspire à quelque chose de meilleur ». C'est le même mot, c'est le mot « zélos ». Aspirer à du mieux. Aspirer à du mieux. Et donc du zèle, c'est « aspire à quelque chose de mieux, mon enfant, et demande pardon. Repens-toi. Il est temps, c'est le moment. C'est le moment, tu ne peux pas rester tiède. Et donc du zèle pour te repentir, repens-toi. Il faut passer par la repentance, c'est obligatoire. Ça manque de zèle. Jésus a quelque chose de mieux en réserve pour nous. C'est triste quand même d'être une église, des derniers temps, et de dire, moi j'ai besoin de rien moi. On a besoin de rien, jumet. Tout va bien pour nous, tout va bien pour moi. Les autres églises, sûrement qu'elles ont besoin de température, de zèle, de feu, de constance avec de lecture de la parole de Dieu, d'enseignement. Mais nous, non, tout va bien pour nous. C'est triste. Mais est-ce que tout va réellement bien si on dit ça? Ou est-ce qu'on veut se voiler la face à nous-mêmes et aussi aux autres? Ne manquons-nous pas, frères et sœurs, bien souvent, et c'est mon cas aussi, de choses spirituelles dans notre vie? Je pense que si. N'avons-nous pas besoin de plus de Dieu, nous aussi, dans notre vie, de plus d'onction de son esprit? N'avons-nous pas besoin de toutes ces choses? Je pense que si. Le Seigneur, au travers de sa parole, nous déclare qu'en fait, on ne sait pas pour nous-mêmes ce qu'on a besoin réellement. On pense savoir, mais on ne sait pas. C'est lui le médecin divin, c'est lui qui sait, c'est lui qui met le doigt où ça va pas. C'est lui qui sait ce qu'il nous faut vraiment dans nos vies, il le sait. Et c'est important de laisser cette place au Seigneur encore ce matin. Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu connais de moi. Je connais tes œuvres, dira Jésus. Tu connais de moi, tu me connais. Tu sais ma température réelle, Seigneur, aujourd'hui. Pas celle que je pense avoir, pas celle que les autres aussi pensent avoir de moi. Tu sais si je suis froid, tu sais si je suis tiède, et je dis tout va bien, je suis riche, pas besoin de plus. Tu sais si je suis tiède et que je veux changer, Seigneur aussi, il le sait. Et le Seigneur, il sait aussi si je suis bouillant, si je suis chaud pour lui, il le sait. C'est quand même grave d'être pauvre, d'être misérable, d'être aveugle et nu, comme dira Jésus, et de ne pas s'en rendre compte. Ou de ne pas vouloir s'en rendre compte parfois. C'est encore autre chose. Imaginons un petit peu, vous partez au centre commercial, à Rive-Gauche par exemple. Partez de chez vous, prenez votre petite besace, votre petit sac à main pour les dames, et vous ne vous rendez pas compte que vous partez complètement nu. On peut faire rire au départ, mais vous sortez dans la rue, prenez votre voiture ou les transports, vous arrivez au magasin, au centre commercial, et tout le monde constate que vous êtes nu. Qu'est-ce qu'ils vont se dire, les gens? Vous aurez la honte. On aura la honte, parce que là, nu devant tout le monde, les gens vont se dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Il a sûrement handicapé, il est handicapé, il y a un souci, quelque chose qui ne va pas, parce que c'est pas normal d'être comme ça. C'est pas normal d'être comme ça. Pourtant, c'est un peu ce qui arrive. Quand on est tiède et qu'on dit que tout va bien, ben on est nu, en fait. On est misérable. On est aveugle, on est pauvre et on s'en rend pas compte parce qu'on dit tout va bien pour moi, tout va bien. Il faut réaliser, je pense aussi ce matin dans cette parole, c'est que notre vraie richesse, c'est le Seigneur Jésus. C'est pas le reste. C'est Jésus qui donne. C'est Jésus qui donne le vêtement blanc. C'est Jésus qui donne le collyre pour avoir une vue spirituelle. C'est Jésus qui est la solution à notre tiédeur. C'est Jésus qui donne l'or éprouvé par le feu. C'est-à-dire la vraie richesse, pas celle du monde. Le vêtement, il est souillé. Il nous faut un vêtement blanc qui cache la honte de notre nudité. Il nous faut se collier pour avoir une vue spirituelle. Et le verset 18 nous déclare qu'il faut acheter ces choses auprès de Jésus. Je te conseille d'acheter de moi, dira-t-il. Ce mot acheter m'a causé un petit peu de soucis. Pourquoi je me suis mis à tarder un peu? Ça veut dire qu'il faut dépenser de l'argent, en fait, pour les grâces de Dieu. Il faut dépenser de l'argent pour le salut. Il faut dépenser de l'argent pour être bouillant, pour être chaud. Il faut dépenser de l'argent pour renouveler sa communion avec le Seigneur. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut dire, évidemment. Si on lit Isaïe 55, verset 1er, ça on peut l'afficher si tu veux bien. Isaïe 55, verset 1er. Je vais attendre qu'il apparaisse. Isaïe 55. Verset 1er, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Merci. Acheter sans rien payer. Est-ce que vous connaissez un magasin, pas qu'à Rive-Gauche, hein, ailleurs, hein, que j'ai pris ça comme exemple, vous pouvez rentrer, acheter sans rien payer. On peut essayer, hein. Vous pouvez rentrer, prendre des choses et vous pouvez essayer de sortir. Ça va pas fonctionner. Ouais. Comment on peut faire pour acheter sans rien payer? Que c'est une chose magnifique, hein. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans le royaume de Dieu, on peut acheter sans rien payer. On peut acheter sans rien payer. Alors, je vous demande si vous avez une idée pour comment faire pour acheter sans rien payer. Eh bien, on peut acheter sans rien payer quand quelqu'un a déjà payé pour vous à l'avance. Quand quelqu'un a déjà payé. Si quelqu'un a déjà payé pour vous d'avance, vous pouvez prendre ce que vous voulez, vous pouvez acheter sans payer, parce que c'est déjà payé pour vous. Qui ce matin, frères et sœurs, a tout payé pour nous? Qui est celui qui a payé la dette, aussi élevée était-elle? Qui ce matin a tout réglé une bonne fois pour toutes? Qui a payé pour les péchés passés, présents et futurs dans notre vie, par son sang et par son corps? Éric nous l'a rappelé, c'est Jésus-Christ. Par son corps et par son sang versé, par sa mort et sa résurrection, Jésus a tout payé. Et s'il a payé aussi cher, c'est parce que on a de la valeur. Nos âmes ont de la valeur pour lui. Nous avons de la valeur pour lui. Autrement, il n'aurait pas payé. Jésus l'a payé pour que l'on puisse bénéficier de l'or éprouvé par le feu. Il a payé pour que l'on puisse bénéficier de ce vêtement blanc qui cachera la honte, notre nudité. Jésus l'a payé pour que ce collyre pour nos yeux soit efficace, pour que notre vue spirituelle soit là. C'est lui qui a payé. Et d'un prix très élevé, très élevé. C'est pas avec de l'argent qu'il a payé. C'est avec sa propre vie, au travers de ses souffrances. Dieu a payé le prix afin que l'on soit riche. Des vrais riches. Riches de bénédiction. Riches de pardon. Riches d'amour. Il a payé le prix pour que l'on soit guéri. Pour que l'on soit vêtu. Pour que l'on soit... qu'on ait une vision claire de la vie avec lui. Nous sommes au bénéfice de toutes ces bénédictions, car le Seigneur Jésus nous a tout acquis. Il a gagné, il a remporté le prix sur l'ennemi, il a tout vaincu. Ce matin, peut-être qu'on ressemble à l'église de Laodicée un peu quand même, finalement, parce que Jésus nous le montre. Mais je pense que si c'est le cas, si on se reconnaît un peu, partiellement, à moitié ou totalement, à l'église de Laodicée, si on y ressemble, si on ressemble un peu à ces chrétiens, je pense qu'il faut être capable de dire à Dieu, « Seigneur, je ne veux pas rester comme ça. Je ne veux pas rester du côté des tièdes, parce que ça ne va pas. Tu montres que ça ne va pas. Je ne veux pas être vomi de ta bouche, Seigneur Jésus. Je veux du renouveau. Je veux passer par la repentance. Je veux avoir du zèle pour me repentir pour toi. Je ne veux pas rester dans le schéma. Je ne veux pas rester tiède. » Il nous faut une prise de conscience. Et le verset 19 de notre passage nous le rappelle. « Moi, dira Jésus, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Si on se sent repris, si on se sent châtié, si on se sent titillé, c'est parce que Jésus nous aime. Il nous faut parfois avec Jésus un petit tacle, une petite baffe, une petite gifle. Il faut nous réveiller. Si on est endormi, il faut qu'il vienne parfois nous piquer pour qu'on se réveille. Là où on est, parce qu'on est endormi. Il faut se laisser reprendre par le Seigneur. Parce que c'est extrêmement malheureux hein, d'être une église de la fin des temps, des derniers temps, et d'être capable de dire, je suis riche, j'ai fait de bonnes affaires, pas besoin de plus moi, je suis riche. Tout va bien. Et peut-être même pas s'en rendre compte, parce que c'est peut-être notre cas ce matin aussi, on s'en rend peut-être même pas compte. Et la suite de notre passage va dans ce sens-là. Jésus dira, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises, et Jésus dira, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Or, c'est un passage fort connu qu'on a utilisé énormément dans les cultes d'évangélisation. Où après le message, le pasteur fait un appel et il dit aux gens qui sont invités, si tu entends la voix du Seigneur dans ton cœur, ferme pas ton cœur, ouvre-lui la porte, va ouvrir, laisse-le entrer, et c'est vrai ça. Et moi je voudrais rester vraiment dans le contexte ce matin, le contexte qui nous intéresse, c'est que Jésus là, il parle à une assemblée de chrétiens nés de nouveau normalement, des chrétiens dans une assemblée comme la nôtre, où il y a des hommes, des femmes, des enfants, des adolescents, des jeunes mamans, des jeunes papas, des grands-pères, des grands-mères. C'est ça ? Jésus, il parle à cette église-là. Et c'est pas normal. Je ne sais pas si vous l'avez relevé que c'est pas normal. Il y a une anomalie quelque part là-bas. Qu'est-ce qui fait Jésus en dehors de la porte ? Pourquoi il n'est pas dedans l'église ? Pourquoi il n'est pas au milieu de son église ? Pourquoi il n'est pas devant, que tout le monde puisse le regarder avancer avec lui ? C'est pas normal ça que Jésus soit dehors. Il frappe et... Il est en dehors de l'assemblée, mais c'est pas normal, il y a une anomalie quelque part, là. Eh bien, je pense que c'est comme ça parce que Laodicée, ils sont tellement devenus tièdes et ils sont tellement dans le contentement de dire « Je suis riche, j'ai fait de bonnes affaires, tout va bien », qu'ils se rendent même pas compte qu'ils ont même plus le sauveur avec eux, mais qu'ils l'ont laissé en dehors de leur église. Ils pensent avoir la belle vie, ils pensent être bénis, ils ont accumulé des biens spirituels et matériels, ils ont des richesses. Mais ils n'ont rien du tout en fait, ils n'ont même plus Jésus, ils n'ont même plus le Sauveur avec eux, même plus au milieu d'eux. Alors question vraiment importante pour nous ce matin aussi, frères et sœurs de Jumet, c'est est-ce que Jésus est au centre de notre église de Jumet ? Est-ce qu'il est là au milieu de nous ? Est-ce qu'il est au milieu ? Est-ce qu'il est devant ? Qu'on puisse le regarder, qu'on puisse regarder vers lui ? Ou est-ce qu'il est là dehors, à l'entrée de la porte qui toque et qu'on n'entend même pas qu'il toque ? Qu'on se dit, oh, c'est le facteur, c'est un livreur, on ira ouvrir plus tard, c'est pas grave, on est occupé pour l'instant. On bénit Dieu pour l'instant. Mais Jésus, il n'est plus dans l'assemblée. Et plus personnellement aussi, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que Jésus ce matin est au centre de ma vie personnelle ? Est-ce qu'il y est dans mon cœur ? Ou est-ce qu'il frappe à la porte de mon cœur et qu'il dit, je suis dehors là, hein. Je toque pour que tu viennes m'ouvrir. Je suis là, hein. Je frappe. Quelle tristesse. de déclarer « je suis riche, j'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il me faut » et ne pas avoir Jésus avec soi. Ça peut arriver, ce que le passage nous dit ce matin. Et Jésus, pourtant, il déclare ce matin « je me tiens à la porte, je, l'éternel Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. » Et le pire, comme je l'ai dit, ce serait de ne pas entendre que Jésus frappe, parce que c'est possible de ne pas entendre. Si on n'est pas à l'écoute, on ne peut pas entendre. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si nos oreilles sont fermées, nos oreilles spirituelles sont fermées, eh bien on ne peut pas entendre que Jésus frappe à la porte. Pourtant, c'est de lui que j'ai besoin pour calmer ma tiédeur, pour soigner ma tiédeur. Il y a un passage dans l'Évangile de Jean qu'on peut afficher derrière, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, versets 3 à 5 et les versets 14 à 15. On va les passer à l'arrière, vous pourrez les lire comme ça pendant que je continue. Jean chapitre 10, versets 3 à 5, et aussi Jean 10, 14 à 15. C'est le passage qui dit que Jésus est le bon berger et que les brebis entendent sa voix, que ces brebis, elles le reconnaissent et que quand elles entendent sa voix, elles le suivent et qu'elles suivront pas un autre parce que c'est sa voix à lui, à Jésus, qu'elles veulent suivre, les brebis. Est-ce que, en tant que brebis ce matin, nous sommes capables d'entendre la voix du bon berger? La voix du bon berger qui frappe à l'extérieur de la porte et qui dit, c'est moi, c'est Jésus, c'est le bon berger, je suis sauveur, c'est moi, je veux entrer dans ton cœur, je veux entrer à nouveau, ou je veux rentrer pour la toute première fois. Jésus en dehors de son assemblée, quelle tristesse, quel malheur. Jésus en dehors de son église, à la Odyssée, peut-être même ici, ou ailleurs en Belgique, ou ailleurs dans le monde. C'est pour ça que les églises vont parfois si mal, je pense, parce que le Sauveur n'est plus là. En sa grâce, parce que Dieu de grâce, de miséricorde, de pardon, eh bien, patiemment, il se tient derrière la porte et il frappe. Il frappe pas qu'une fois, il continue à frapper. Et tout le temps de grâce, tout le temps que la grâce durera, Jésus frappera à la porte, il frappera encore, encore et encore, jusqu'à ce qu'on l'entende, jusqu'à ce qu'on le reconnaisse et jusqu'à ce qu'on aille lui ouvrir. Ça m'interpellait aussi ça. Pourquoi il défonce pas la porte, Jésus? Il est capable, hein. C'est pas une porte qui va le retenir, que ce soit la porte physique ou la porte du cœur, pas de problème pour lui. Pourquoi il passe pas au travers de la porte? On voit Jésus quand il est ressuscité, qu'il vient visiter ses disciples, il passe au travers des murs, il se téléporte. Il pourrait le faire. Pourquoi il le fait pas? Pourquoi Jésus décide-t-il de frapper à cette porte patiemment et d'attendre qu'on vienne lui ouvrir? Et je crois qu'on peut résumer ça en un seul mot, c'est la repentance. La repentance. Je crois que le Seigneur Jésus, il veut nous amener à une prise de conscience sur notre état, à une réflexion. Qu'on puisse entendre frapper à la porte et qu'on se dise, mais enfin, tiens, on frappe à la porte, c'est bizarre, c'est insistant, mais je reconnais la voix. Ça me dit quelque chose, cette voix. Ben oui, parce que c'est la voix de Jésus-Christ, c'est la voix du Sauveur. Et de se diriger vers la porte, d'ouvrir la porte à Jésus, il dira, Seigneur, c'est toi, je t'avais laissé dehors. Pardon, Seigneur, ça ne peut plus arriver, je te demande pardon. Et il pardonne. Et alors, il vient à nouveau entrer chez nous. Il vient entrer, mais pas seulement, il entre, il s'installe, il veut souper avec nous et nous avec lui. Il veut qu'on soit en intimité. Il veut qu'on soit avec lui en intimité. Mais la part de l'être humain est là. C'est nous qui devons ouvrir la porte. C'est pas lui qui va la défoncer. C'est nous qui devons réaliser que nous avons besoin de lui, que nous ne sommes pas si chauds que ça en définitive. On pense être chaud, on pense avoir fait accumuler des bénédictions, accumuler des biens, et que tout roule et que tout va bien, et qu'on est riche, mais qu'on est pauvre, qu'on est aveugle, qu'on est nu, qu'on est misérable sans lui. Si Jésus est en dehors de la porte, est à l'extérieur du bâtiment, est à l'extérieur de mon cœur, je peux pas être bouillant. Terminé. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est tromper les hommes. Si Jésus n'est pas dans mon cœur, je suis plus que tiède, je ne peux pas être bouillant. Ça, c'est pas vrai. Alors, comment faire pour être bouillant ce matin? Comment faire? Comment redevenir bouillant? Comment devenir bouillant? J'ai déjà dit, pour être bouillant, il ne faut pas que Jésus soit dehors. Il faut qu'il soit dedans. Il faut qu'il soit à l'intérieur. Je peux être bouillant que si j'ai une communion, une intimité avec Jésus-Christ, au travers de la lecture de sa parole, de sa méditation, de la prière intense avec Jésus, chaque jour. Être bouillant, c'est pas juste le dimanche, et parfois certains mardis, c'est tous les jours. Il faut s'intéresser à Jésus tous les jours, il faut lui parler tous les jours. Il faut lui parler comme un ami, comme un père, sans arrêt. Garder cette intimité avec lui. C'est comme ça qu'on peut devenir bouillant. peut-être faire appel à vos souvenirs un peu, et peut-être que c'est encore le cas pour vous, mais moi je me rappelle que quand j'étais jeune, et que j'habitais encore chez mes parents, il y avait mon papa, ma maman, mon frère, ma sœur et moi-même, chacun avait ses occupations durant la journée. Chacun à son travail, ou à l'école, ou papa au boulot, maman à la maison. Et autant il y avait la course la journée que quand arrivait l'heure du souper, 18h30, 19h, si la télé fonctionnait, on l'éteignait, si la radio fonctionnait, on l'éteignait. Et on s'installait à table et on dégustait le repas que maman avait préparé. En plus, elle cuisinait quand même bien. Alors là, c'est un moment d'intimité. Là, durant ce repas, on parlait de notre journée. On parlait des choses qui se sont bien passées, des choses qui ont donné de la joie. Mais on parle aussi des difficultés. La journée était difficile au boulot parce que telle et telle chose. Mais là, on vit l'intimité en famille. Et quand on pense à une agape à cerise ou une agape quelconque entre frères et sœurs, eh bien, on est ensemble, on est bien. On est dans l'intimité parce que Jésus est avec nous. Et là, on est bien. On est intime avec lui. Vous voyez ? Le repas est un temps de partage. C'est pas par hasard que Jésus dira « Je vais entrer souper avec toi et toi avec moi ». C'est parce qu'il sait bien que c'est de l'intimité. Il sait que c'est là qu'on partage le secret de l'intimité. Et c'est ce que Jésus veut faire avec nous. Communier avec nous. Partager. Être présent dans notre intimité, chaque jour. On peut être bouillant que comme ça. Plus on est proche de Dieu, plus on est chaud, plus on est bouillant, plus on est loin de Dieu, plus on le laisse en dehors, plus on est tiède. Alors un exemple pour vous montrer ceci. Vous mettez une casserole d'eau salée chauffée sur le feu, elle bout. Vous mettez cuire vos pommes de terre coupées en morceaux à l'intérieur pour faire une salade de pommes de terre. Les pommes de terre sont cuites. Prenez l'écumoire, la passoire, vous les retirez. La casserole est vide, elle est bouillante. Vous coupez le fourneau en dessous, elle va rester chaude. Mais combien de temps? Inexorablement, chaque minute, chaque quart d'heure, chaque demi-heure, chaque heure, la casserole va perdre en température. C'est comme ça, on ne sait rien y faire. Il y aura encore de la vapeur au début, puis il n'y aura plus de vapeur. Puis l'eau va s'estomper, la température va baisser, elle va baisser. Et ça se fait de manière sournoise, hein, ça ne se voit pas ça. Ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas. Qui est sournois avec nous? Qui est manipulateur? Qui veut nous refroidir? Qui veut nous endormir, si ce n'est l'ennemi, si ce n'est Satan? Insidieusement, par parfois des choses qui ne sont pas mauvaises pour autant, Satan veut nous endormir, nous refroidir. Les smartphones, l'internet, la télévision, les sorties, le sport, les activités, n'importe quelle chose qui prend la place de Dieu, Satan veut que nous les pratiquions parce que ça nous refroidit, parce qu'on perd en température. C'est comme ça. C'est comme ça que l'ennemi travaille. Il préfère agir comme ça, sournoisement, que venir claquer les volets ou ouvrir des portes. Il sait le faire aussi, ça, mais il est sournois. Il est malin. Alors il vient nous refroidir. On perd des degrés pour lui. Et peut-être que ce matin, c'est notre cas. C'est peut-être nous, la casserole, qui était bouillante. Et le fourneau a été coupé en dessous depuis longtemps. Et l'eau, elle est plus tiède. Elle est plus chaude, l'eau. Et jamais le fourneau n'a été rallumé en dessous. Jamais on l'a rallumé. Mais elle n'est pas froide, l'eau. Donc, on peut continuer comme ça encore un moment. Casserole qui reste chaude durant un temps, mais qui perdra de la chaleur. C'est une certitude. Le Seigneur, il déclare que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de se laisser tiédir. Ce n'est pas le moment de se laisser endormir. Ce n'est pas le moment de se laisser avoir par l'ennemi comme ça, de nous laisser perdre de la température. Parce que pendant qu'on est tiède, on ne lui sert plus à rien. L'eau tiède, elle est écœurante, elle fait vomir. Et Jésus dira, je te vomirai de ma bouche. Sachons reprendre l'intimité avec le Seigneur. Il veut entrer, lui. Lui veut entrer. Mais est-ce que nous voulons le laisser entrer auprès de nous? Ça, c'est la question. J'aimerais terminer ce matin avec le verset 21. Belle promesse qui va avec. Écoutez bien cette promesse. Celui qui vaincra. Je vais attendre qu'elle arrive dans Apocalypse chapitre 3. Verset 21. Voilà. Merci. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis sur son trône avec mon Père. La promesse, c'est ça. C'est qu'on soit assis sur le trône avec Jésus-Christ. Parce que Jésus a vaincu, je suis vainqueur aussi par sa mort et sa résurrection. Je suis vainqueur. Et il veut que je m'asseye avec lui. Et moi j'ai noté, c'est ce petit avec. C'est ça l'importance. Notons bien le avec. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. l'intimité avec Jésus. On est avec lui, on lui tient la main, on est près de lui, on est proche de lui, dans l'intimité avec lui. Jésus insiste sur l'importance d'être avec lui. Il nous invite à être avec lui. Comme lui a été proche de son Père et comme le Père a été proche du Fils sur la terre, il veut que nous soyons proches de Jésus, comme ça, parce qu'il sait que c'est notre bien, que c'est la volonté de Dieu. En commençant cette prédication, je vous ai dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je pense que ce n'est pas le moment d'être oublieux. Ce n'est pas le moment de fermer nos oreilles spirituelles. Ce n'est pas le moment de mettre nos mains. De dire non, ce n'est pas pour moi. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, j'ai autre chose comme occupation. Ce n'est pas pour moi pour l'instant. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut être à l'écoute de Dieu. Et pour conclure ce matin, on s'est peut-être nous-mêmes identifiés à cette église de Laodicée, plus qu'on ne le pensait, définitivement. Église de Laodicée, dans certains points ou dans l'entièreté de cette église, mais il y a un mot dont on doit se souvenir, si c'est le cas. Le mot, c'est repentance. 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 Et donc du zèle, et repens-toi. Si nous sommes comme ça, si on s'est rendu compte ce matin qu'on est tiède et qu'on dit « je suis riche, tout va bien », ou qu'on est froid et qu'on veut être bouillant, il faut nous repentir. Il faut passer par la croix de Jésus, savoir dire « Seigneur, je te demande pardon », ça va pas. Ma vie, ça ne va pas. Je veux pas rester comme ça. Je veux pas que tu me vomisses de ta bouche. Je veux de nouveau pour toi être brûlant. Je veux que ta casserole elle soit réchauffée. Je veux que le feu soit remis en route en dessous. Je veux que la vapeur se crée. Je veux émaner aussi pour les autres. Je veux émaner pour les autres. Si nous faisons preuve de repentance, le Seigneur Francis a dit, il est fidèle. Il est fidèle. Sa fidélité, refuge de paix. Nous avons chanté. Seigneur, il est fidèle pour nous pardonner et nous accueillir tout à nouveau là où il y a eu une cassure. Là où l'intimité s'est arrêtée. Et je terminerai par vous dire que cette lettre à l'église de Laodicée, eh bien que ce matin ne soit pas pour nous une lettre morte. Parce qu'elle a été écrite il y a des années, la lettre. Mais elle n'est pas une lettre morte. Qu'elle soit pour nous une lettre vivante, et plus que vivante. Qu'elle soit une lettre vivante parce que c'est la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, on n'ouvre pas comme un montage d'IKEA ou comme une recette de cuisine. La parole de Dieu, c'est vivant. La parole de Dieu, ça agit, c'est puissant. La parole de Dieu, elle doit nous convaincre du péché dans nos vies, du besoin de repentance. La parole de Dieu, elle doit nous transformer chaque jour, petit à petit, chaque jour, pour que les degrés ne s'estompent pas, mais que la température reste correcte, de plus en plus chaude pour le Seigneur. J'ai besoin de repentance dans ma vie. J'espère que vous aussi, vous avez besoin de repentance dans votre vie. Et peut-être aussi de nous apprendre cette lettre à Laodicée, qui est une lettre vivante, à replacer les bonnes choses au centre de l'Assemblée, et aussi au centre de ma vie personnelle, c'est-à-dire Jésus-Christ, au centre de ma vie et de mon Église. Amen.